Allô, Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Immo pour ce nouveau numéro de Allô Radio Immo. Vous le savez, c'est une émission qui donne la parole à des experts en immobilier, mais aussi des experts financiers qui viennent vous donner les meilleurs conseils pour investir, mais aussi répondre aux différentes questions que vous vous posez sur les investissements immobiliers. Et nous allons aujourd'hui traiter d'investissement, évidemment, sur l'immobilier, mais surtout sur le type d'action à investir, sur laquelle il faut investir en 2022. Et nous avons d'ailleurs, pour répondre à ces questions, deux spécialistes et deux experts. Avec nous aujourd'hui, Mathieu Hachemkani. Bonjour Mathieu, conseiller en gestion de patrimoine chez Fairless Conseil.
Bonjour Kenza.
Ça va Mathieu?
Comme toujours.
Oui, merci d'être avec nous. Jean-Baptiste Aldon, responsable analyse financière chez Fairless Conseil. D'abord, avant d'aborder justement les meilleurs placements financiers et immobiliers pour l'année 2022, vous nous expliquez en quoi consiste votre métier. On va peut-être commencer par Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'est qu'un responsable analyse financière?
Bonjour Kenza. Pour ma part, en tant que responsable analyse financière pour le cabinet Fairless Conseil, je m'occupe principalement de la partie finance, donc bourse, donc via les comptes titres, PEA, assurance vie, plan d'épargne retraite. C'est plutôt pour nos clients qui souhaitent préparer leur avenir via la bourse.
Et ça, ça touche tout le monde? Toutes les générations?
De plus en plus, ouais. Oui. De plus en plus. Vous regarderez les statistiques, il y a de plus en plus de nouveaux entrants sur les marchés financiers. Il y a une dizaine d'années, ça a baissé un petit peu. Et maintenant, il y a un regain d'intérêt pour les investisseurs, pour la finance.
Il faut avoir beaucoup d'argent, Jean-Baptiste, pour investir sur des actions financières?
Alors, je ne parlerai pas pour les autres cabinets, mais nous, on s'occupe de clients qui ont envie, qui ont du potentiel.
D'accord.
Et qui n'ont pas peur d'investir. On n'a pas de critères particuliers là-dessus. On est ouvert à tout type de clientèle.
Bien. Donc on peut être un petit investisseur et un gros investisseur en fait.
Tout à fait.
D'accord. Mathieu, vous nous rappelez votre métier, que vous aimez d'ailleurs, que vous faites par passion.
Ah bah oui, de toute façon, je vois pas comment on pourrait faire ce métier autre que par passion, puisqu'il c'est un mélange de plusieurs métiers au final, puisqu'on a du droit, de la comptabilité, aussi un peu de la finance, forcément, et de l'immobilier. Donc le métier de conseiller en gestion de patrimoine, bon bah il y a le mot conseil qui est dedans, donc c'est très facile, et conseiller la gestion de patrimoine, les gens s'imaginent du coup que c'est forcément que pour des personnes qui ont un patrimoine important, mais en fait un patrimoine c'est aussi un passif, c'est-à-dire un crédit, ça peut être aussi simplement des liens de famille, comment on peut protéger. Donc ça touche à tout le monde en fait.
Et ça arrive de suivre une famille de génération en génération?
Ah ça c'est notre spécialité, c'est notre éclat, c'est notre plaisir à nous.
C'est sûr.
C'est vraiment ce qu'il y a de plus émouvant presque pour nous, c'est quand on a du coup des clients qui nous annoncent qu'ils ont des enfants et qu'on va commencer à optimiser cette partie-là aussi, c'est juste génial.
Alors c'est bien quand il y a des mariages, mais quand il y a des divorces aussi, il faut gérer. Hein.
Bah pour l'instant, j'imagine, on touche du bois, on n'a eu aucun divorce.
Ah bah c'est magnifique. Hein.
Aucun divorce, aucune séparation, rien du tout.
Magnifique. Donc c'est l'argent qui les laisse...
Alors je sais pas si c'est l'argent ou si c'est nos conseils qui font qu'ils ne veulent peut-être pas divorcer, j'en sais strictement rien. Ouais. Mais en tout cas, on est heureux, on est un peu dans le monde de business chez nous, donc c'est cool.
Tant mieux. Alors juste une question quand même importante avec vous Jean-Baptiste, on va peut-être faire un point pour parler d'économie et de finances, évidemment puisque c'est votre secteur. C'est quoi la situation économique et sociale en France aujourd'hui?
Ah, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment un gap, et c'est ce que les gens un petit peu ont du mal à comprendre, il y a un peu un gap entre la situation sociale en France et la bourse. La bourse se porte très très bien, on y reviendra un peu plus en détail, mais les banques centrales ont inondé tellement les marchés financiers de flux pour aider à soutenir les économies et les entreprises pendant le Covid. Donc c'est vrai que la bourse pourrait nous donner l'impression qu'on est dans un monde idéal, alors que la réalité sociale est bien différente avec la rentrée en septembre qui nous attend avec de nombreuses choses intéressantes comme la réforme des retraites, l'assurance maladie, du chômage, etc. Donc oui, effectivement, il y a cette petite différence entre les deux. Maintenant, la bourse, la finance... code toujours le futur. C'est-à-dire qu'on a la bourse, si vous regardez la bourse, elle a toujours 2 ans d'avance sur la réalité. Donc ça voudrait dire qu'on se projette dans un monde qui va être plutôt optimiste si on suit les marchés
financiers.
Comment
vous expliquez ce décalage, Jean-Baptiste, entre la réalité et ce qui se passe vraiment?
Ben, oui, comme je vous dis, déjà, il y a cette notion de futur. La bourse ne code jamais le temps réel, c'est-à-dire qu'on se projette sur 1, 2, 3 ans minimum.
Oui, c'est de la spéculation. Donc
voilà. Elle a toujours un temps d'avance en théorie sur la réalité. Maintenant, après, d'un point de vue purement technique, les banques centrales, que ce soit la Fed aux États-Unis ou la Banque centrale européenne en Europe, a largement soutenu les économies et les entreprises via, la, on va dire, vulgairement parlant, la planche à billets. D'accord. Donc, il y a cette petite différence-là. Après, nous, on n'est pas spécialement inquiets pour le futur. Maintenant, après, on est tous dépendants de la situation sanitaire. On attend que ça s'améliore, mais si on suit les analystes, théoriquement... théoriquement, on a un grand rayon de soleil devant nous.
Alors après, c'est vrai qu'il y a par exemple plein de gens qui ont investi dans des actions en bourse avant l'arrivée de la pandémie, sur des actions dont on ne s'imaginait pas que ça allait exploser. On a entendu parler de l'explosion de la bourse, de ce qui se passe sur les laboratoires, par exemple, médicaux, sur Netflix, par exemple, il y a eu plein de choses comme ça. Est-ce que finalement, investir en bourse, c'est pas être visionnaire aussi un peu, c'est pas prendre de l'avance sur les autres?
Non, investir en bourse, c'est avoir une vision, c'est avoir des idées auxquelles on se tient et surtout savoir s'adapter. Netflix, par exemple, a cartonné en bourse ces deux dernières années, ça a explosé. Là, récemment, ils ont fait une publication un tout petit peu décevante, ça a perdu 30%, je crois, 20-25-30%.
Ouais, il me semble, à un moment donné, ça a perdu même 40% pour petit retour, à la réalité.
C'est peut-être parce que les gens sont revenus au bureau aussi, c'est peut-être ça aussi, non?
Non, c'était pas spécialement lié à ça. En fait, c'est simplement
le télétravail n'a pas changé la donne à ce niveau-là.
Non, c'est pas vraiment sur ça. C'est plus sur le fait.
Il y a une grosse concurrence dans le streaming.
Il y a une grosse concurrence, c'est qu'en fait, on peut pas dépasser plus de nombre d'abonnés qu'il y a de nombre de populations dans le monde. Donc, au bout d'un moment, ça stagne un petit peu, mais ça a tellement évolué à la hausse que bon.
Oui, je pense qu'un investisseur Netflix aujourd'hui, qui a investi il y a 2-3 ans, est extrêmement satisfait malgré la petite baisse actuelle. Et puis, il y a plein de valeurs.
Encore plus extrêmement satisfait. C'est qu'il est riche ou il n'est pas riche?
C'est-à-dire qu'il a pu facilement, presque pas loin de doubler son capital, mais sur 3 ans, oui, on n'en est pas loin.
C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal.
Donc il y a des gens qui se sont enrichis grâce à la bourse durant le Covid.
Bien sûr.
Pendant cette période, ce qu'on a pu noter, c'est que beaucoup de personnes se sont lancées dans l'immobilier, mais beaucoup plus en fait dans le financier, parce qu'ils se sont dit non mais c'est Black Friday en ce moment, il y a tout qui est à moins 60%, je peux acheter n'importe quoi, allez c'est parti quoi.
Oui, il y a eu des chiffres impressionnants, pratiquement les 3 semaines qui ont suivi l'arrivée du Covid en France, on a vu presque par dizaines voire centaines de milliers de nouveaux investisseurs qui ont su profiter justement de ce pic de marché, et qui aujourd'hui, comme les marchés sont revenus à des niveaux beaucoup plus hauts qu'avant la crise, Covid, ce qui peut paraître un peu paradoxal, comme on disait, il y en a plein qui, du coup, on peut penser qu'ils vont perdurer sur ce type de placement.
Pour gérer certains patrimoines, justement, Mathieu, est-ce que vous conseillez certains de vos clients d'investir sur les marchés financiers, voire d'investir en bourse?
Alors disons qu'idéalement, il faut toujours avoir un patrimoine équilibré. Si on n'a que de l'immobilier, c'est dangereux. Si on n'a que du financier, c'est dangereux. Dans le monde des bisounours, il faut avoir 50-50 dans l'idéal. Après, ça va dépendre en fait de la typologie de la personne, puisque en fait, il n'y a pas que les personnes physiques qui peuvent investir, il y a aussi les sociétés. Mais si je reste sur monsieur et madame tout le monde, il faut avoir conscience aussi que investir sur les marchés, c'est pas comme un livret A. On peut perdre beaucoup, on peut même perdre tout. C'est tout à fait possible. Il y a des actions qui ont perdu 95% de leur valeur. C'est pas neutre. Donc il faut avoir cette conscience de notion de risque et de temps.
Voilà. Oui, c'est ça, prendre son temps et faire les bons choix.
Exact.
Et être accompagné surtout par des professionnels comme vous pour faire les bons choix, justement.
Idéalement.
Surtout pour 2022, parce qu'a priori, il y a des nouvelles choses, des perspectives financières et aussi en matière de patrimoine, puisque certains nombreux de nos auditeurs se posent la question justement sur quoi il est intéressant d'investir pour 2022. Alors justement, Mathieu, est-ce que il y a des produits plus que d'autres qui sont intéressants, sur lesquels il faut investir?
Ok, je vois le sens de la question.
En tout cas, pour commencer.
En gros, c'est souvent la question, ok, j'ai très envie d'aller sur les marchés financiers, mais je fais comment en fait? Je vais chez mon banquier, je vais aller investir sur le marché financier, on ne sait pas vraiment comment. Donc en fait, il y a plusieurs solutions possibles. On peut aller sur une assurance vie, on peut aller sur un PEA, un compte titre. Généralement, ça ne parle pas forcément aux gens, mais on va regarder du coup la fiscalité. Et là, les gens disent, si je vais sur le PEA, je suis exonéré de plus-value si je le garde depuis 5 ans, enfin plus de 5 ans.
PEA, c'est
plan épargne en action.
On est là, d'accord.
Donc c'est la possibilité d'investir dans des actions. Il y a quand même des inconvénients d'aller là-dessus, puisque je ne peux investir que sur des actions européennes, et au final, Souvent, tout à l'heure, il y avait une question, c'est est-ce qu'avec un petit capital, je peux aller investir sur les marchés financiers? En fait, pour moi, la réponse est un peu biaisée. C'est un peu oui et non. Oui, parce que avec n'importe quel capital, je peux aller investir, mais le problème, c'est que si j'ai 100 euros à placer, bah, si l'action coûte 100 euros, je peux acheter une action. Si elle coûte 95, je peux acheter 95 euros d'action. Je peux pas acheter des fractions d'actions. Et dans ce cas-là, pour ceux qui ont un petit capital, vaut mieux plus diversifier sur une assurance vie.
Alors, moi, je vous donne mon cas personnel. Mathieu, j'ai été voir mon banquier et mon banquier lui-même m'a conseillé d'investir sur des actions, justement, bancaires, des actions financières. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est le banquier qui choisit parfois pour vous parce que vous n'y connaissez rien. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si le banquier, on peut lui faire confiance? Il prend quand même notre argent, il investit sur des actions. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est bien conseillé?
Alors, déjà, je vais déjà féliciter le conseiller bancaire parce qu'en règle générale, il le propose jamais, en fait, ça, il dit simplement vous avez un peu et démerdez-vous.
Ouais.
Donc là déjà c'est plutôt bien.
Ouais.
Alors déjà il faut regarder.
Ça fait peur en fait.
Bien sûr ah, que oui. Ça fait peur puisque
même si on met que 1000 euros, mais c'est 1000 euros quand même.
1000 euros enfin, ou n'importe quelle somme en fait.
Bien sûr.
Beaucoup de Français s'imaginent qu'on peut perdre 95% du jour au lendemain.
Bah c'est ça.
Sauf que dans la pratique c'est extrêmement rare. C'est plutôt je peux peut-être perdre 2 ou 3% du jour au lendemain.
D'accord.
Mais du coup comment on peut savoir si la personne qu'on a en face de nous est bien ou pas?
Oui.
Bah il faut surtout lui demander est-ce qu'elle est active en fait. Est-ce que elle regarde ça tous les jours? Encore une fois, je suis pas en train de lui jeter la pierre à Pierre, mais mon banquier, si le matin il s'occupe de gérer les débiteurs, etc. Enfin,
c'est pas son métier.
C'est pas son métier. D'accord. Il est pas sans arrêt dessus. Mmh. C'est problématique.
Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste?
Alors moi, je serais un petit peu moins modéré que mon cher patron.
Oui. Allez-y.
Je dirais que ce n'est pas du tout leur métier
et
qu'il vaut mieux passer par un conseil de qualité, par des gens qui ont les diplômes et qui ont été formés pour ça. Alors je vais prêcher ma paroisse, mais à la limite, mieux vaut passer par, si on a le patrimoine qui le permet, par des conseillers en gestion de patrimoine. Je pense que si vous posez la question à tous les clients du réseau Banque Populaire, je doute qu'ils vous donnent un bon avis sur
les banquiers. Jean-Baptiste, pardon, mais si on veut commencer par investir à peine 1000 euros ou 1500 euros, clairement, on ne va pas venir vous voir, vous. On va aller d'abord s'adresser à son banquier. Non?
Normalement, oui, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a
un client qui a 1500 euros qui veut investir, il ne pense pas tout de suite à aller vous voir.
Non, je suis d'accord. Nous, c'est
un
peu particulier.
Vous, c'est un client qui vous intéresse pas.
Voilà.
On est d'accord.
Non, nous, c'est un peu particulier. Nous, on s'intéresse un peu à tout type de clientèle. Après, de l'ordre d'ordre général, je suis d'accord avec vous.
D'accord. Moi, j'ai 1005. Je fais comment pour investir? Par exemple, je vais investir sur des placements financiers ou un placement.
Alors, je reviendrai juste quand même ce qui a été dit. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils ont 1500 euros, ils vont pas penser à parler à un conseiller en gestion de patrimoine.
Ah oui.
Mais ce qu'on a constaté, nous, personnellement, en tout cas, depuis à peu près un an, sur les nouveaux réseaux sociaux, y a de plus en plus de jeunes et ils font appel à des CGP, ce qui est assez étonnant. Donc il y a une sorte de changement de tendance à ce niveau-là.
D'accord. Alors il y a des gens aussi qui se forment sur Internet.
Oui.
Ça existe. Est-ce qu'on peut tomber sur des arnaques? Est-ce qu'on peut tomber sur des mauvais conseils? Ou est-ce qu'on peut se former seul en, justement, en bouquinant? Moi, j'ai connu des gens qui, à force de regarder, ont été formés par d'autres et se sont mis à investir dans la bourse ou sur des actions financières. Est-ce que c'est possible? On peut le faire tout seul?
Je pense qu'en effet, on peut le faire tout seul. Avec pas mal de formations derrière, même pas forcément de formations académiques, mais en effet beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, etc. Mais comme je viens de le dire, beaucoup d'eux. Beaucoup d'eux veut dire beaucoup de temps.
Oui.
Et derrière, une fois qu'on a fini de se former, il faut appliquer, et appliquer ce qu'on a appris, ça prend aussi du temps. Donc si on a la possibilité de le faire en termes de temps, oui, tout à fait.
Très bien. Alors, on va peut-être parler de secteurs, Jean-Baptiste, avec vous. Quels sont les secteurs sur lesquels vous conseillez d'investir en 2022 sur un horizon moyen, long terme? C'est une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs.
Bah, le plus important, ce que vous avez dit dans votre question, c'est surtout l'horizon.
Mmh.
On aura du mal à conseiller une personne pour un placement d'un an. C'est pas notre métier. On n'est pas Nostradamus. On a une vision moyen, long terme. Quelqu'un qui a peut-être 3 ans, 5 ans devant lui, là, on aura des idées à lui donner sur lesquelles on est relativement confiant et serein. Après, voilà, il faut cet horizon de placement minimum puisque l'année 2022 va être très stressante, très volatile et riche en émotions. Alors nous, on aime particulièrement ce qu'on aime en France, notamment.
Oui.
On n'est pas spécialement accro au marché français,
oui,
mais on aime beaucoup en France les moyennes capitalisations et les petites capitalisations qui, selon nous, recèlent un potentiel énorme. un peu à l'image de la France. La France est constituée vraiment de petites et moyennes entreprises, d'ETI. Et nous, pour nous, c'est là-dessus qu'il y a vraiment du business à faire.
D'accord, ça veut dire qu'on peut investir sur des start-up ?
Pas forcément start-up, mais on va dire l'étape du dessus, c'est-à-dire petite capitalisation, moyenne capitalisation, c'est-à-dire des boîtes qui valent en moyenne entre 200 millions et 1 milliard d'euros.
D'accord. Et dans quel secteur ? Alors, qui sont divers secteurs ? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sortent quand même un peu du lot ?
Nous, on a un secteur qui nous intéresse beaucoup pour jouer la reprise de l'économie. Et on a une entreprise qu'on aime tout particulièrement et dont on a fait profiter nos clients, qui s'appelle Katana. C'est une petite société qui a investi dans les catamarans, mais plutôt haut de gamme. Hein. C'est des bateaux de l'ordre de 5 ou 600 000 euros le bateau. Mais justement, on est sur cette envie d'évasion, cette envie de profiter du monde, même en pleine mer. Des résultats sont impressionnants, les perspectives sont impressionnantes. Tous les voyants sont au vert. Après, sinon, on aime bien, en sortant un petit peu de la France et de l'Europe, le Nasdaq, qui est pour nous le plus beau marché du monde.
Secteur médical, non ? Il n'y a pas eu de grands investissements là-dedans ?
On peut parler de Eurofins.
Voilà, éventuellement Eurofins et Sartorius, qui sont deux belles sociétés qui sont au CAC 40 et au SBF 120. C'est des sociétés, en fait, je vais parler juste de Sartorius, qui est une société qu'on adore. C'est une société, en fait, faut savoir que tous les grands labos médicaux de ce monde, en fait, lorsqu'ils sortent des vaccins ou des médicaments, il y a à peu près 6 à 10 ans d'études. Et en fait, la règle, et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a quand même un petit moment, c'est qu'en fait, quand vous faites vos certifications via des labos d'analyse, vous êtes obligé de les faire sur 10 ans. Donc ces sociétés-là ont énormément de perspectives, puisqu'en fait, quand elles travaillent avec un client, elles y travaillent pendant 10 ans. Et avec toutes les recherches de vaccins, de médicaments, là, avec le Covid, ces sociétés-là ont doublé leur capitalisation en à peine un an. Et on va dire qu'il y a un grand rayon de soleil qui les attend encore pour les années à venir.
Moi, je vais juste faire une petite parenthèse pour faire rager un tout petit peu tout le monde. Moi, le premier, d'ailleurs. Eurofins, si on avait investi 1 euro, en quelle date ?
Alors, Eurofins...
Oh là là, je sens que ça va me faire mal.
Oui, même nous, ça nous a fait mal, parce que j'avais 8 ans, je crois, quand elle a été créée, cette société.
Ne me dites pas qu'on passe de 1 euro à 1 million.
Pour 1000 euros, le directeur général, qui a été le créateur de la boîte et qui en est toujours le directeur général, a sorti un chiffre qui a été assez affolant. Pour 1000 euros d'investi il y a 24 ans, je crois, 24 ou 26 ans, j'ai plus le chiffre exact, aujourd'hui vous seriez à 1 million d'euros.
C'est fou, c'est dingue. Alors, est-ce que les gens il y a 24 ans qui ont investi étaient des gens comme vous et moi ? Enfin, pardon, comme moi. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est des gens qui s'y connaissaient quand même un minimum, ou est-ce qu'ils ont un peu, comment vous dire, c'est comme jouer au loto, quoi. Ils se sont dit, tiens, je vais mettre un peu d'argent là-dessus.
C'est possible qu'il y ait eu ce cas-là, parce qu'en fait, à l'époque, c'est ce qu'on appelait une penny stock, c'est-à-dire des actions qui cotaient moins d'un euro, etc. Donc il y a des gens qui vont comme ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Eurofins, c'est une belle histoire nantaise. C'était longtemps à un cours très faible.
D'accord.
Ça a vraiment monté.
Non, mais c'est une success story qui n'est pas non plus.
C'est exceptionnel.
On est d'accord, c'est pas non plus quelque chose
On peut voir même l'effet inverse Europcar que tout le monde connaît. Le cours de l'action actuellement, je pense qu'on doit être à 0,50 centimes.
Et qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce qu'il y a une explication particulière ou pas ?
Ah, il y a quelques explications, en effet, Jean-Baptiste.
On peut ou pas ? Non, mais c'est intéressant de connaître quand même
Étant moins modéré de nous deux, je dirais qu'il y a une part de mauvais...
T'as trouvé mieux que toi.
Disons qu'ils ont subi la crise de plein fouet. C'est sûr que faire des véhicules de location en plein Covid, c'est un peu compliqué quand on n'est pas censé sortir de chez soi.
Il y a une
part de mauvaise gestion aussi également. C'est pas forcément des business... On parlera d'autres business après, mais c'est pas forcément des business très sexy déjà en temps normal. Il n'y a pas des marges énormes. C'est pas là-dessus qu'on conseillerait n'importe lequel de nos investisseurs.
Très bien. Jean-Baptiste, on a une question d'un auditeur qui nous pose la question suivante. Étant donné la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, est-ce que vous pensez que ce soit le bon moment pour investir ?
Oui. Tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment pour investir. Dans
comme
le sens
l'immobilier,
il suffit de savoir cerner un petit peu les actions qui ont du potentiel. Moi, comme je vous dis, je me tiens à l'écart des grosses valeurs actuellement qui sont très volatiles. Et je reste persuadé que la richesse de la France, en tout cas d'un point de vue boursier, sont les petites et moyennes capitalisations. Et là, des exemples comme Katana, on en a peut-être 5 ou 6 et on est relativement serein. Quoi qu'il se passe, on sait qu'à la fin de l'année... on aura le sourire aux lèvres.
Mathieu, en matière immobilière, quelles sont pour vous les meilleures actions en tout cas sur lesquelles il faut investir, ou les meilleurs en tout cas projets immobiliers?
Disons qu'il y a à mon sens trois possibilités. Il y a la possibilité de prendre de risques, donc c'est d'aller dans des actions qui sont immobilières. On peut penser à Klépierre, on peut penser à Unibail aussi, qui actuellement sont un cours assez bas et qui ont potentiellement un gain d'espérance d'ici un ou deux ans.
D'accord.
Mais pas avant. Après, on peut aller sinon sur ce qu'on appelle des OPCI. Donc, ça ressemble un peu à des SCPI qui donc investissent sur l'immobilier, mélangé avec du financier. Donc, c'est un peu l'accord des deux. Sauf que c'est un petit peu trouble au niveau des actions. On ne sait pas vraiment sur quelle action on investit. Donc,
d'accord,
c'est un peu trouble. Et si on souhaite avoir la sécurité au final et un rendement correct, les valeurs sûres de l'immobilier, entre guillemets, ça reste toujours la location meublée, professionnel ou non professionnel, et sinon aussi la SCPI si on ne veut pas s'occuper de la gestion, etc.
Oui, effectivement. Est-ce que plus on place de l'argent et plus on gagne? Ou ça ne veut rien dire?
Ça ne veut strictement rien dire. Mais c'est vrai que la question nous arrive souvent, c'est si je mets 1000 euros, c'est mieux que je mette 10 000, j'y gagnerai plus. Bah, en fait, 20% de 1000, c'est toujours 20% de 10 000, c'est exactement pareil. Ça ne change strictement rien. C'est juste qu'on a la perception de penser qu'on gagne plus, mais 20%, c'est toujours 20% en fait.
Très bien. Jean-Baptiste, une autre question de la part de nos auditeurs. L'immobilier semble se porter à merveille étant donné le contexte actuel. Est-ce qu'on peut investir dans n'importe quel actif immobilier ou faut-il en privilégier certains?
Alors, nous, on adore l'immobilier, même si moi, je suis plutôt en charge du financier. Je reprendrai vraiment ce qu'a dit Mathieu. Pour moi, la personne qui n'a pas spécialement de connaissances en immobilier devrait déjà commencer à envisager la location meublée non professionnelle.
Ouais.
En termes de fiscalité, il n'existe rien de mieux en France. Et tant que ça tient, que les règles ne changent pas du point de vue de la législation, il faut en profiter. Après, un actif qu'on adore énormément, qu'on commercialise beaucoup avec nos clients, les SCPI. Pas de problème de gestion, les aléas sont gérés par des professionnels, et puis on arrive surtout à des rentabilités qui sont, j'ai envie de dire, un petit peu démentielles dans l'immobilier par rapport au commun des mortels. C'est-à-dire qu'on peut facilement avoir du 4 à 10% selon les montages, selon, entre guillemets, le taux de risque qu'on a à prendre, mais l'immobilier, de toute façon, se portera, j'ai envie de dire, systématiquement bien, même s'il peut y avoir un petit crack tous les 15 ans.
C'est toujours intéressant d'investir, vous voulez dire.
Ouais, parce que de toute façon, il y a une crise du logement en France depuis la Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, ça ne changera pas. On ne construit pas assez d'habitations par rapport à la demande, donc structurellement, le marché, enfin les prix seront toujours tendus à la hausse. Et même, comme je vous dis, si on a un petit crack immobilier qu'on perd 15% une fois tous les 15 ans, quand on voit les augmentations dans les grandes villes, l'immobilier, on peut être relativement serein. Après, l'immobilier, il faut savoir choisir le bon domaine, c'est-à-dire qu'on privilégie le meublé.
Après, il y a aussi un truc qui est pas mal, qu'on réserve qu'à une clientèle qui a la possibilité de le faire financièrement et fiscalement aussi parlant, c'est acheter la nue propriété d'un bien immobilier.
Ah oui, il paraît que c'est tendance, ça. Il paraît que ça marche très bien.
Je vais donner un exemple de Levallois-Perret.
Oui.
Levallois-Perret, un 45 mètres carrés, donc dans du neuf, on est à 180 000 euros.
C'est pas cher.
C'est pas cher du tout. L'inconvénient, entre guillemets, majeur, c'est qu'on n'a pas de loyer pendant une durée de 15 ans. On peut pas y vivre pendant 15 ans.
D'accord.
Mais 15 ans plus tard, jour pour jour, je récupère le bien.
D'accord.
Si le bien, mettons, il soit de base 300 000, je récupère donc 300 000 euros, la valeur totale de mon bien.
D'accord.
Et donc, je n'ai fait aucune plus-value d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire que si je le revends derrière, pas d'impôt, niet nada.
D'accord, mais ça c'est un super placement ça.
C'est vraiment pas mal.
Mais par contre, c'est un placement dont
peu de gens connaissent.
Et
après, il faut aussi pouvoir y aller, puisque c'est-à-dire pas de revenus. Donc la manchette de crédit, c'est à 100% qu'elle est prise.
Donc il faut être conseillé, parce que c'est vrai que c'est pas un choix facile.
La clientèle patrimoniale connaît très bien ce genre de placement.
Oui, non, mais c'est sûr.
C'est-à-dire qu'entre 50% d'impôts et zéro, ils la connaissent très bien.
Bien sûr. Après, c'est un choix. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On est d'accord. Alors, on a une question concernant le livret A. Un auditeur nous dit que le livret A vient de passer de 0,5% à 1%.
Quelle chance.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste Aldon?
J'en pense que même il serait passé à 2%, ça ne changeait pas grand-chose en soi, puisque le livret A, je le rappelle, par définition, est juste là pour combler l'inflation. L'inflation étant, bien entendu, largement au-delà des 1%. Il faut partir du principe que quand vous placez votre argent sur le livret A, vous perdez de l'argent. Même si vous avez un taux d'intérêt de 1%, si les prix augmentent de 5%, votre baguette vous coûtera toujours plus que vous rapporte votre livret A à la fin de
D'accord.
l'année. Le livret A, bah, je vais rappeler les fondamentaux qu'on apprend en école de gestion de patrimoine. Ça sert uniquement à couvrir un besoin urgent pour de la disponibilité à tout moment. Et on laisse entre 3 et 6 mois de salaire maximum. Le reste, c'est de l'argent perdu. Il ne faudra pas venir se plaindre si, à un moment donné de notre vie, on manque de fonds, si on place tout son argent sur le livret A. Voilà, 3 à 6 mois de salaire sur un livret A,
D'accord.
c'est la seule chose à faire. Plus, c'est de la perte assurée.
Petit rappel quand même, hein, si je place aujourd'hui donc 10 000 euros au 1er janvier, à la fin de l'année, j'aurai généreusement du coup 100 euros de quoi rembourser mes frais bancaires.
Alors, on a aussi une actualité hein, qui nous amène à parler de la situation de nos aînés. Il y a beaucoup de questions sur ce secteur, via les EHPAD, justement. Alors d'abord, quelle analyse on fait sur ce dossier bien précis ? C'est-à-dire, est-ce que c'est intéressant d'investir dans un appartement en EHPAD ? Je ne sais pas si on dit un appartement en EHPAD ou on dit dans un EHPAD ou
un établissement,
d'accord ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il y a encore du potentiel ? Et est-ce que c'est un bon placement financier et immobilier pour 2022 ? Jean-Baptiste,
alors,
je vous vois sourire.
J'essaierai d'être le plus modéré possible. disons qu'avant le...
Il est beaucoup plus dangereux que vous, en fait. Jean-Baptiste,
bah, on aime bien être cash hein, chez nous.
Ouais,
hein,
ouais,
nous
on ne fait pas perdre de temps à nos clients.
Non, mais au moins, vous êtes cash. Vous vous dites ouais. ça marche ou ça ne marche pas. Il n'y a pas besoin de...
Avant le scandale Orpea Corian, puisque Corian, ça va arriver là dans quelques jours, et puis on sait qu'il se passe à peu près la même chose, c'est des business qui ne nous intéressaient pas du tout. D'un point de vue purement financier, là, je ne vais pas parler d'éthique.
D'accord.
C'est des business qui rapportaient peu. C'est des sociétés qui sont surendettées. Avec la hausse des taux, c'est tout ce qu'il ne faut pas investir, déjà en théorie.
La population est vieillissante, on a
oui,
besoin de ce genre d'établissement.
J'ai envie de dire, il y a un business, mais pas en bourse. C'est-à-dire que, bon déjà moi d'un point de vue éthique, et pourtant je suis financier, donc on pourrait penser qu'on n'a pas beaucoup d'éthique, peut-être, mais d'un point de vue purement financier, déjà c'était pas intéressant, et d'un point de vue éthique, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, surtout après les choses qu'on a apprises récemment. Maintenant, j'ai envie de dire non, ce n'est pas un bon conseil d'investissement, même si l'action a énormément chuté, il y a beaucoup mieux à faire.
Oui, et puis D'accord. même d'un point de vue purement immobilier, est-ce que ça vaut le coup pas d'investir dans un EHPAD ? Pareil en fait, il y a beaucoup plus d'EHPAD sur le marché que d'établissements de résidence senior, et il y a une différence majeure entre les deux. Une résidence senior, c'est une personne âgée qui souhaite être autonome mais qui a peut-être besoin d'être accompagnée sur certaines choses.
D'accord.
Un EHPAD au final, c'est des personnes qui n'ont pas fait le choix et donc c'est pas la même ambiance, forcément c'est pas les mêmes coûts, et pour quelqu'un qui voudrait investir dedans, c'est pas les mêmes risques non plus. Il y a beaucoup plus de risques dans un EHPAD que dans une résidence senior, par exemple.
Alors, on arrive à la dernière minute de l'émission. Peut-être deux dernières questions pour vous. On va peut-être, Mathieu, on va finir avec une question 0% langue de bois. Vous avez déjà proposé un produit à votre client plutôt qu'un autre pour percevoir une commission plus importante ?
Non.
Bien, vous avez de l'éthique, vous. Hein.
Non, tout simplement parce que...
il est honnête, le Mathieu, il est honnête.
Ouais, et puis bon, l'argent, c'est pas une fin en soi. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en GESPAT, on aime beaucoup l'argent.
Maintenant que vous avez un enfant, il faut penser différemment quand même.
Oui, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire du bon travail et du coup, être mieux payé, quoi. Non, non, mais c'est simplement que on est dans une approche où on veut vraiment conseiller le client, donc qu'on gagne plus ou moins, c'est pas ce qui est le plus important, c'est la relation sur long terme. Donc quelqu'un qu'on aurait justement survendu un produit plus qu'un autre, il va s'en apercevoir à un moment d'autre et c'est pas notre intérêt.
Très bien. Jean-Baptiste Haldon, pour finir et pour conclure, est-ce que 2022 en France est une année d'opportunité ou l'année de tous les dangers ?
Les deux à la fois, Kenza. Si vous êtes bien conseillé, il y a plein d'opportunités. Si vous y allez un petit peu...
À l'aveuglette,
ça peut être l'année de tous
D'accord.
les dangers.
Donc ce qu'on peut retenir finalement, c'est qu'il faut être accompagné, quel que soit l'investissement financier ou immobilier dans lequel on investit, même si on a un petit budget. On est d'accord,
oui.
Ne pas investir sur tout et n'importe quoi.
Même si on a 1000 euros qui a été ouvert dans sa banque et conseillé par son banquier, oui, tout à fait.
On peut devenir riche ou pas ? En investissement.
Avec 1000 euros ?
Oui, non, mais pas avec 1000 euros. Mais est-ce que si on investit en bourse, on peut devenir riche ou pas ?
Alors, je vais reprendre l'exemple de Jean-Baptiste qui était sur l'action de Katana. Katana, où nous-mêmes, en fait, nous avons aussi investi nous-mêmes nos fonds.
C'est vrai ?
Propres, oui.
Donc, vous y croyez déjà dès le départ ?
Ah, nous, on y a cru quand l'action valait, c'était il y a à peine un an, si je dis pas de bêtises,
0,80. Et alors, faites-moi vos montres, là, que je regarde. Vous avez une Rolex ou pas ?
Ça arrive. Donc, l'action, elle valait 3,54 au mois de juillet 2020. Et actuellement, à ce jour, elle vaut 7,90 euros. Sachant qu'elle devrait monter d'ici fin d'année, je pense, à peu près à 12.
D'accord, mais vous avez mis combien au début? Parce que c'est ça qui m'intéresse.
Ah, c'est ça que vous voulez savoir?
Ah, bah oui. Combien vous avez gagné?
Bah, pour ma part, j'ai mis la modeste somme de 100 000 euros à peu près.
Ah, quand même?
Oui.
Et que sur ces 60 000 euros pour ma part, puisque j'attends toujours l'augmentation de mon patron.
Bon, bah, au moins, le message est passé pour finir.
Je crois que c'était la dernière question.
Effectivement. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été nos invités, nos experts du jour dans Allo Radio Immo. Jean-Baptiste Aldon, responsable analyse financière chez Fairless Conseil, et Mathieu Hachemkani. Comme d'habitude, on a été ravis de vous avoir, conseiller en gestion du patrimoine chez Fairless Conseil. Merci messieurs, et puis dès qu'on sort, vous me donnez 2-3 conseils quand même, pour investir là.
Tout de suite.
J'ai 1000 euros là, c'est bon ou pas?
C'est parti.
Okay, merci messieurs, à bientôt.
Au revoir.
Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.